Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichamp.
Et l'entreprise du jour qui recrute la principale, l'invité principale, c'est Linde Kilmanke, la DRH du groupe Arche. Arche Immobilier, on va focusser, comme on dit dans le jargon, sur Citia Immobilier. Vous allez découvrir des postes de dirigeants d'agence, de conseillers, etc. De belles opportunités. En seconde situation, nous retrouvons notre enquête exclusive Média RH BVA, mensuelle, exclusive, donc qui porte sur les salariés de terrain. Et il se pose la question, quelles perspectives on les a interrogés avec Julien Goiran de BVA. Enfin, on terminera par la start-up qui cartonne et qui recrute. C'est Florence Rollo, fondatrice, cofondatrice de Coachline, qui viendra nous présenter les postes à pourvoir. Voilà le sommaire.
BFM Business, le club Média RH, l'entreprise qui recrute.
Bonjour Linde Kilmanke, on est ravis de vous retrouver. On s'est déjà rencontrés il y a quelques temps. Alors on va faire un point, bien sûr, sur ce secteur qui bouge beaucoup, l'immobilier. C'est l'occasion pour nous de le découvrir avec vous. Vous qui êtes plongé dans le groupe Arche, vous êtes la DRH groupe Arche. On va en parler d'abord, mais on va surtout axer sur Citia. Alors, parlons d'abord, avant de présenter les postes à pourvoir, faisons la carte d'identité du groupe Arche, plus connu par ses marques.
Tout à fait. Alexandre, bonjour. D'abord, je suis ravie de vous retrouver. Le groupe Arche, c'est plusieurs marques dans l'immobilier. C'est un écosystème autour de l'immobilier, mais aussi avec des activités d'assurance, de diagnostic immobilier, etc. Arche, c'est les marques comme Century 21, comme La Forêt, comme Guy Hoquet, comme Le Bon Agent, ou encore comme Citia Immobilier.
Et toutes ces marques sont dans la corbeille du groupe Arche.
Dans la galaxie. On l'appelle comme ça. Ouais, absolument.
Exact. Ouais. Alors, ça représente combien de personnes, ce groupe?
Alors, ce groupe, c'est 23 000 collaborateurs.
Wow, c'est
globalement
énorme.
Tout à fait.
Le siège est à Tours, du groupe?
Oui.
Historique?
Historique.
Le chiffre d'affaires, on le donne ou pas?
Le chiffre d'affaires, on peut le donner. Citia, c'est un volume d'affaires, absolument. Citia, c'est un peu moins de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires.
D'accord.
Voilà. Et le groupe, c'est plutôt un volume d'affaires. On parle d'un milliard 6.
Voilà. D'accord, oui, c'est une très très belle entreprise française. Et Citia Immobilier, c'est 4500 salariés.
Absolument.
D'accord. Oui. Alors le groupe en lui-même, il existe depuis combien de temps, vous dites?
Le groupe, il existe depuis près de 30 ans.
Très bien. Et vous êtes présent, alors prenons l'exemple de Citia, qui est la marque emblématique, une des marques emblématiques de votre groupe. Vous recherchez donc des collaborateurs, est-ce que vous avez un chiffre à nous fournir?
Pour Citia, on cherche environ 200 collaborateurs.
200 personnes.
Voilà, 200 collaborateurs sur des postes de cadre. Et un peu plus de 200 également sur des postes tout statut confondu, que ce soit des agents de maîtrise ou des employés.
Alors, on va détailler tout ça. On va aller dans l'ordre parce que ça intéresse nos auditeurs et téléspectateurs de BFM Business. On va commencer par les dirigeants d'agence. C'est quoi un dirigeant d'agence?
Un dirigeant d'agence, chez nous, c'est d'abord un chef d'entreprise. Oui. C'est d'abord quelqu'un qui a envie d'être un commerçant dans sa ville, d'appréhender son univers.
Dans sa ville?
Dans sa ville, oui, oui. C'est important. C'est important parce qu'il faut exister dans son environnement pour emmener ses collaborateurs, pour aller conquérir ses clients, pour aller être pertinent pour conseiller ses clients dans leur placement immobilier. Et pour toutes ces raisons-là, c'est d'abord quelqu'un qui vit dans sa ville.
Donc ça veut dire quelqu'un qui connaît sa ville? Il est dans l'immobilier, il connaît la valeur des choses, les quartiers, etc., etc.
C'est ça. Ensuite, c'est quelqu'un qui va se concentrer sur l'animation de son équipe.
Oui.
C'est encore plus vrai aujourd'hui. Hein. On a besoin de prendre soin et d'accompagner nos collaborateurs. Mmh. Donc, c'est quelqu'un qui va s'occuper de l'animation de ses équipes et qui va s'occuper de ses clients. Voilà.
Alors, il a une formation, est-ce qu'il y a un diplôme de directeur d'agence de l'immobilier?
Pas réellement. C'est l'expérience, c'est le cumul peut-être d'un niveau Bac plus 4 ou 5 en droit, en économie, en commerce, cumulé à une expérience. Et ça peut être aussi des reconversions. C'est aussi une nouvelle voie qu'on voit apparaître, des gens qui viennent de la grande distribution, par exemple, et qui rejoignent l'immobilier par curiosité après une première expérience.
De toute façon, ils seront formés par vos soins.
Oui. C'est quelque chose qui nous est très caractéristique.
Est-ce qu'il y a des zones, ligne de Kilmaine, est-ce qu'il y a des zones de tension pour trouver des... Enfin, est-ce qu'il y a des postes, des endroits où vous avez le plus besoin aujourd'hui, à court terme, de trouver des directeurs d'agence?
Pas forcément. J'en cherche France entière. J'ai une quinzaine de postes au moins de dirigeants d'agence qui est à pourvoir. Et c'est vraiment France entière. On a la chance d'être beaucoup en développement à Paris. Donc, on en a quelques-uns à Paris. J'ai une petite concentration en ce moment à Paris. Mais j'en ai aussi tout autant en région. Et donc, dans le sud de la France ou dans l'est, l'ouest, toutes les régions sont représentées.
Un dirigeant d'agence se dirige combien de personnes?
Entre...
L'agence immobilière.
Entre 10 et... 45-50 collaborateurs.
Oui. Ça peut être 50 personnes.
Oui.
En fonction de la taille de l'agence.
Voilà, du volume d'activité et du nombre de clients et de...
Alors ça, c'est les postes de dirigeants d'agence. Il y a des postes de conseiller négociateur vente et location.
Absolument. C'est des clés d'entrée pour des gens qui viennent du commerce et qui veulent aborder ces métiers-là, conseiller sur la location, conseiller sur la transaction des potentiels clients.
Il faut avoir le sens du commerce, le sens de l'écoute, le sens de l'empathie.
Voilà.
Parce d'abord, qu'on est au contact de ceux qui veulent vendre des biens, d'autres qui veulent en acheter, c'est ça?
C'est ça. C'est d'abord les gens qui ont envie de rendre heureux des acquéreurs, de rendre heureux des gens qui ont besoin de se loger. C'est le besoin primaire, dans la pyramide de Maslow. C'est l'un des premiers besoins d'un être humain. Et donc, c'est quelqu'un qui a envie de prendre en charge l'autre et de répondre à ses besoins. Ensuite, c'est des techniciens de leur art, c'est-à-dire qui connaissent les environnements, les quartiers.
Là aussi, il faut avoir une compétence dans sa ville.
Voilà.
Alors, il faut avoir une formation, il faut avoir un diplôme. Je repose la question pour comprendre.
L'idéal, c'est d'avoir au moins un bac plus 2 en immobilier pour pouvoir appréhender les différentes problématiques.
Les bac plus 2 en immobilier.
Bien sûr, il y a les BTS profession immobilière sont tout à fait développées dans beaucoup de régions en France et qui permettent d'accéder à ces métiers-là.
J'aime bien parce qu'on prend le temps de parler des postes à pourvoir. Alors, gestionnaire syndic ou gérance locative?
Oui. Alors ça, c'est des métiers méconnus, parfois qui jouissent d'une réputation qui est injustement... on communique injustement sur ces métiers, sur des choses un peu pénibles. Or, c'est tout l'inverse. C'est des métiers qui sont pour nous des vrais tremplins à pouvoir évoluer et à pouvoir apprendre et développer des compétences d'animateur, de gestionnaire de situations particulières. On prend en charge un immeuble, donc on prend en charge tout ce qui peut se passer sur un immeuble. On répond à des problématiques comptables, à des problématiques juridiques. On anime les intérêts collectifs d'une population qui doit se mettre d'accord chaque année sur un budget, sur un fonctionnement, etc. Donc, c'est des postes qui sont très riches. Et on a, en ce moment, on a un petit phénomène. On accueille beaucoup de gens qui sont en reconversion dans ces métiers-là parce que je trouve que les gens ont besoin des rapports aux autres. Et c'est un métier qui est très nourri par ça.
Alors, rapidement, des postes de comptable, un peu partout en France, des assistants ou assistantes, fonctions travers juriste, gestionnaire RH, responsable comptable, etc. Au total, ça fait à peu près 200 postes, dites-vous.
200 postes, là, voilà, de cadre. Ouvert. Et 200 postes, pour le coup, d'agents de maîtrise et d'employés. Oui. Donc au total, vraiment France entière, y compris les postes du siège, c'est un total de 400 postes.
Alors, question classique, Lynn, qu'est-ce que vous avez à offrir? Et qu'est-ce que vous attendez des candidats? Alors, d'abord, qu'est-ce que vous avez à offrir?
Alors, ce qu'on a à offrir,
Parce qu'il y a une concurrence dans ce secteur de l'immobilier pour attirer les talents.
Oui.
Vous, c'est quoi vos plus?
Ce que j'estime être nos plus, c'est qu'on a la chance d'avoir des agences immobilières à taille humaine. C'est-à-dire que Philippe Briand, notre président, fondateur d'Arche, j'en profite pour dire que c'est d'ailleurs le seul et unique propriétaire et décideur de cette maison, ce qui nous rend très agiles.
Fondateur.
Fondateur, et qui donne beaucoup d'humanité à cette maison. Et cette humanité, il la traduit à travers des agences qui sont dans des équipes à taille humaine. D'accord. Et je crois qu'aujourd'hui, on voit des phénomènes migratoires de gens qui quittent les grandes villes pour aller en province parce qu'ils veulent retrouver un peu d'humanité leur quotidien.
Oui,
et ben nous, c'est ça qu'on va leur apporter. D'abord et avant
tout, c'est votre ADN.
Vous avez des équipes avec un chef d'entreprise qui décide, sur lequel Philippe Briand lui a donné un volet d'action chaque année en budget. On est en pleine session budgétaire. Il lui a donné un volet d'action et dans ce volet d'action, avec l'équipe, il décide. Et donc, quand vous rejoignez une équipe et une agence Citia, vous êtes dans une équipe à taille humaine et vous êtes avec des rapports avec un dirigeant qui a les volets et les mains libres pour décider de votre votre avenir et conduire aussi votre avenir. Et en même temps, vous appartenez à un groupe. Donc, les opportunités sont multiples pour pouvoir évoluer.
Alors, je vais vous poser, juste pour terminer cette phase, une question plus personnelle. Vous êtes la DRH de ce groupe, le groupe Arche. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette entreprise ? À Tours, hein, le siège
oui.
à Tours.
Oui, oui. Ça fait 19 ans cette année. Wow. 19 ans que je suis dans cette maison.
Vous êtes arrivé comment ?
Je suis arrivée, j'en avais 24, il y avait 250 collaborateurs et on était à l'aune de ce qui allait devenir Arche et la maison Citia.
Donc vous étiez dans les RH, je veux dire à l'intérieur de l'entreprise déjà ?
Pas du tout, je finissais ma formation à Paris, j'étais très heureuse à Paris, on m'a rappelé pour venir à Tours, j'en avais pas du tout envie. Mais en réalité j'avais fait un stage quelques années auparavant dans cette entreprise qui m'avait marquée par son humanité, par la beauté des métiers et puis par la personnalité des gens qui font ce métier. Et c'est pour ça que j'ai voulu y retourner et que j'ai décidé de quitter ce Paris que j'aimais beaucoup pour revenir à Tours prendre ce poste. Et je m'y plais toujours énormément. Et aujourd'hui, on est 50.
Et on grandit, ça veut dire qu'on grandit, on peut grandir, on peut arriver comme vous. Et
voilà, j'étais juste diplômée de mon master RH, mais voilà.
Bon, félicitations.
J'ai pris dans la maison.
Et ça fait 19 ans que ça dure.
Voilà.
Que ça dure,
pour vous
que ça dure. Vous restez avec nous, Lynn de Kilman. Je rappelle que vous êtes la DRH groupe Arche qui regroupe des marques de l'immobilier, illustres marques. Alors, on va parler maintenant de notre enquête mensuelle avec Julien Guaran de BVA, notre enquête exclusive. Le sujet, quelle perspective pour les salariés de terrain ?
BFM Business, le Club Média RH, décryptage RH.
Bonjour Julien Guaran.
Bonjour Alexandre.
Vous écoutez avec beaucoup d'intérêt.
Oui, absolument.
Je sens que vous allez vous reconvertir.
Oui, j'aurai des questions à poser.
Merci d'être avec nous tous les mois. Donc vous avez la gentillesse de vous tourner vers les Français. Ce sont des enquêtes tout à fait officielles, comme on dit.
Absolument.
Qui couvrent combien de tous les âges, tous les métiers. Comme on dit,
En général, on est sur des échantillons représentatifs de salariés. Là, on est sur un échantillon un peu particulier puisqu'on a uniquement des salariés de terrain.
Voilà.
C'est-à-dire des gens qui exercent. C'est une étude qu'on a menée avec Skello, qui est un spécialiste qui offre des solutions SaaS de pilotage RH, d'accord. Et notamment de pilotage RH des équipes de terrain. C'est-à-dire tous ceux qui ont été en première ligne pendant la crise sanitaire, hein, dont on a beaucoup parlé, et qui, d'une certaine manière, sont un peu les oubliés du monde digital. Et ces équipes de terrain, eh bien, il y a des propositions pour que leur pénibilité au travail s'améliore, et elles passent notamment par des solutions digitales.
Alors, vous avez le principe de ces enquêtes exclusives, je le répète, pour Média RH, eh bien, c'est de poser des questions. Alors, la première question que vous leur avez posée à ces hommes et femmes de terrain, j'y vais. De manière générale, quand vous pensez à votre travail ou au métier que vous exercez, diriez-vous que c'est un métier ? Vous leur avez fait des propositions utiles, qui vous plaît, difficiles, valorisants. Réponse.
Déjà, Alexandre, vous posez très bien les questions. ces salariés de terrain nous disent en premier lieu qu'ils sont un métier qu'ils jugent eux-mêmes comme utile à 95%, ce qui rentre bien avec le récit qu'on a pu
avoir. J'ai oublié de vous demander ce que c'est qu'est un métier de terrain, parce qu'on parlait des métiers de terrain tout à l'heure avec Lynn.
Oui.
Alors, vous, ça regroupe quoi ?
Des enseignants, parenthèse. Des ouvriers, des chauffeurs, donc tout ce qui est du commerce, tout ce qui sont des postes qui sont des postes fixes et qui ne sont pas télétravaillables.
D'accord, très bien. Alors
utile, est-ce qu'ils ont le sentiment d'avoir un métier utile ? 95%.
C'est énorme.
Est-ce qu'ils ont un métier qui leur plaît ? Oui, 85%. En revanche, est-ce qu'ils ont un métier qu'ils jugent eux-mêmes comme difficile ? On est à 78% qui nous disent oui. Et enfin, le regard social qui est posé dessus, c'est-à-dire est-ce qu'on a des métiers qui sont valorisants ? Ils ne sont que 60%, 39% nous disent non. Donc on a là, d'une certaine façon, un petit schéma de ces métiers, qui sont des métiers qui plaisent à ceux qui les exercent, qui sont des métiers qui jugent eux-mêmes comme largement utiles, et la société a pu les juger comme particulièrement utiles, mais qui posent des problèmes de valorisation.
Deuxième question, diriez-vous que votre métier est un métier pénible ? Toujours, on parle toujours de ces hommes et de ces femmes de terrain.
Oui.
Leur réponse.
Alors, dans une période où on s'interroge sur la pénibilité des métiers d'une part et d'autre part sur le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui veulent changer de métier, cette question elle est centrale pour cette population en particulier sur laquelle il y a parfois des tensions de recrutement. Ben oui, il est pénible et c'est ce qu'ils nous disent à 72%.
Ah, c'est énorme.
Il n'y a que 25% pour nous dire qu'il n'est pas pénible. Donc on voit bien qu'on est sur des métiers qui ont des contraintes et sur lesquels effectivement il y a des opportunités pour améliorer et gérer cette pénibilité.
Troisième question, dans votre métier, êtes-vous confronté, alors là vous listez des douleurs physiques, mal de dos, stress, des horaires décalés, etc.
Et là aussi, on a une description peut-être un peu crue de ces métiers, c'est-à-dire douleurs physiques, il y en a 62% qui nous disent très souvent ou assez souvent. Stress, 54%, ce qu'on peut retrouver pour le coup dans d'autres métiers. Des horaires décalés, avec les impacts que ça peut avoir, 51%. Des modifications d'emploi du temps, 45%. Donc on voit bien que l'exercice au quotidien de ces métiers intègre un certain nombre de contraintes qui font partie de cette pénibilité et qui font aussi, d'une certaine manière, la réponse à la question suivante.
Ah oui, la question suivante, elle est intéressante parce qu'avec tout ce qu'on vient de dire, vous leur avez dit, bon alors finalement, compte tenu de tout ce que vous avez répondu, avez-vous déjà pensé à quitter votre emploi actuel ou à vous réorienter ? La réponse ?
La réponse, quand il s'agit de quitter votre emploi actuel, vous avez 66% qui nous disent oui, soit souvent, 22%, soit vous y pensez parfois. 44%. Et d'autre part, la même chose, changer de métier ou de secteur d'activité, on est à 22% et 42%. C'est-à-dire qu'il y a quand même une fragilisation fondamentale de tous ces métiers de proximité qui explique les difficultés de recrutement et qui implique peut-être de s'interroger sur de façon plus approfondie sur les conditions de travail de ces métiers qui ne bénéficient pas de l'espèce de vague un petit peu rêvée qui touche le télétravail et sur lequel de nombreux outils digitaux viennent en soutien à l'exercice des métiers.
Alors justement, le digital, c'est la dernière question. Vous tendez une perche. Selon vous, le digital et les outils numériques représentent-ils plutôt un atout ou une contrainte dans votre travail au quotidien? Je rappelle, si vous nous rejoignez, qu'on parle d'une enquête exclusive liée aux hommes et femmes qui sont
Travailleurs de terrain, absolument.
Leur réponse.
Alors, un atout, 40%. Est-ce que c'est une contrainte? Vous avez quand même 16%.
Et
enfin, vous avez 43%, ni l'un ni l'autre. Effectivement, la balance, elle est très positive par rapport au fait que c'est un atout. Mais finalement, l'item le plus important, c'est ni l'un ni l'autre, 43%. C'est-à-dire que pour l'instant, cette question de la digitalisation entrée sur les métiers de terrain, elle peine plus que sur d'autres types de métiers à s'imposer. Et on est au stade où il faut apporter la preuve. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des preuves et effectivement est-ce qu'il y a des solutions qui permettent d'améliorer cette question de la pénibilité et de rendre les métiers de terrain peut-être plus agiles, plus souples, plus organisés, de manière à ce que ça pèse moins directement sur le salarié.
Merci Julien Garand, vous restez avec nous. On va faire réagir Lynn de Kilmen, pardon. Je suis dyslexique, j'inverse les mots. Vous qui êtes DRH du groupe Arche, avec toutes les entreprises qui font partie de ce groupe, vous avez entendu les hommes et les femmes de terrain, ils sont chez vous aussi d'ailleurs.
Oui, oui.
Qu'est-ce que vous avez pensé de cette enquête? Qu'est-ce que vous en retirez?
Ils sont chez nous, ils sont beaucoup chez nous. Je pense qu'il y a beaucoup, la plupart des métiers qu'on a chez nous sont des métiers de terrain, clairement.
Ben oui.
Parce qu'on ne peut pas travailler en télétravail la plupart de
nos métiers. On ne peut pas avoir un appartement et un bien immobilier en télétravail.
Absolument pas. Non. Et je pense que ce qui me marque, c'est le manque de reconnaissance en particulier de ces acteurs de terrain. Et je pense que c'est dû, à mon avis aussi, certainement à la mise en avant peut-être exagérée de tous ceux qui peuvent télétravailler. Je trouve que dans le télétravail, il y a quelque chose de profondément injuste, à mon sens. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on parlerait toujours de ces gens qui peuvent télétravailler, qui télétravaillent, ils doivent faire la part des choses entre leur vie perso, leur... Et je pense qu'en faisant ça et en mettant trop en avant ce côté télétravail et
ça doit faire des jaloux, d'ailleurs.
Ça fait des jaloux.
Et ça
dévalorise tous ceux qui sont sur le terrain. Ben et oui, pourquoi est-ce que les médecins, les professeurs, les éboueurs auraient moins d'importance à nos yeux que tous ces gens de bureau, ces cols blancs qui finalement ont la chance de pouvoir télétravailler? Et pour moi, il y a peut-être une part d'explication dans cette dimension-là. C'est mon avis en tout cas. Voilà.
Bon, vous restez avec nous, je vais vous demander de réagir sur la dernière séquence, la start-up qui cartonne et qui recrute. Coachline, nous sommes ravis de recevoir Florence Rollo qui en est sa porte-parole. Des postes à pourvoir.
BFM Business, le club média RH, la start-up qui recrute.
Alors, Coachline, vous bavardez avec Julien Gouarant, c'est positif. Alors, bonjour d'abord.
Bonjour.
Ravi de vous rencontrer. Également. Vous êtes la cofondatrice, la fondatrice?
Fondatrice et présidente.
Et présidente de Coachline.
Oui, tout à fait.
Alors, cette start-up, on va en parler, on va commencer par ça, la carte d'identité, pareil.
Exactement.
Combien de postes avez-vous à pourvoir?
Alors, notre recrutement est un peu particulier dans la mesure où nous recrutons actuellement
des coachs,
des sociétaires.
à des sociétaires associés.
Coach, voilà. Coach, formateur, facilitateur.
Oui.
Parce que nous, en 2022, nous avons complètement changé notre business model. C'est-à-dire qu'on a été incubé pendant 3-4 ans pour bâtir un écosystème digital. Et maintenant, on est vraiment dans le déploiement.
Alors, j'aurais dû commencer par ça, c'est de ma faute, je vous ai laissé avancer, je ne voulais pas vous couper. Il faut peut-être d'abord raconter ce que c'est que Coachline.
Oui.
Alors, on peut penser que c'est dans le nom déjà, Coachline.
Voilà, alors effectivement...
Création 2016, basée à Paris, 110 000 euros levés, 7 associés. Quelle est l'idée de départ ?
Alors, l'idée de départ, en fait, c'était un projet de bâtir un écosystème digital.
Oui.
Parce que déjà en 2016, on sentait venir que beaucoup d'accompagnement allait se faire en distance. Et on n'avait pas l'écosystème nécessaire. Et on a monté la société autour de ce projet au départ. Mais en fait, l'idée était surtout de pouvoir travailler comme on souhaitait travailler, c'est-à-dire d'adresser nos missions qui sont en direction des entreprises, des dirigeants, des organisations, donc qui concernent l'accompagnement. On a une raison d'être qui est le développement de la performance naturelle dans les organisations. Et à partir de là, on voulait pouvoir adresser sur mesure les sujets qui nous arrivaient. Et pour ça, il fallait avoir d'un côté des hommes et des femmes qui sont des experts hautement qualifiés,
oui.
Et de l'autre côté, un écosystème digital. Donc, quand on a eu fait tout ça, on a eu aussi des premiers clients, de belles marques d'ailleurs, et à partir de là, on a, en 2022, complètement changé notre façon de travailler.
Alors, si je vous demandais d'une manière simple, pardon, c'est pas péjoratif,
non.
De nous expliquer votre métier aujourd'hui de vos coachs.
Oui.
Ils font quoi ? Qui sont les clients ? Alors, je vais vous poser la question, c'est les entreprises ?
Oui, tout à fait.
Pour leurs salariés ?
Alors, pour leurs salariés ou pour leurs clients ?
Ou pour leurs clients. Le type de services qui sont rendus ?
Alors, ça va être
simple, des
parcours d'accompagnement qui comprennent du coaching, de la formation, de la facilitation.
Développer les compétences.
Bien sûr, développer les compétences managériales, comportementales, entrepreneuriales. Partir d'un point A pour arriver à un point B, c'est ça l'accompagnement.
Où êtes-vous installé ? Vous êtes basé où ?
Alors, on est basé à Avenue de la Grande Armée.
À Paris.
À Paris.
D'accord.
Cela dit, on travaille tous de façon délocalisée. Hein. J'ai un membre de l'équipe qui est en Espagne, un autre qui est dans le sud de la France. On n'est que deux sur Paris, puisqu'on n'est que quatre.
Alors, vous, on parlait du télétravail, vous êtes le type même. Pourquoi ? Tout se passe par téléphone ou par vidéo ?
Non, on est constamment en visio, en fait.
Ah oui.
Oui, on travaille chacun de notre côté, mais on a des temps, on a régulé des temps de rencontre, des temps de travail d'équipe. Et quand on a des réunions plus importantes, on va dans nos bureaux de coworking.
Qui recherchez-vous ? Comment peut-on vous aider ? Vous avez des postes à pourvoir.
Oui, alors, donc, on a commencé à développer cette coopérative. Pour quelle raison ? Parce que, d'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le secteur de l'accompagnement, vous avez des gros acteurs qui proposent des formats assez standardisés et surtout qui, peu à peu, ubérisent les métiers de la formation, du coaching. Et ça devient de plus en plus compliqué pour les professionnels. Donc, à travers la coopérative, notre idée... c'est d'accueillir les coachs formateurs comme associés sociétaires et surtout rupture avec le business model de la sous-traitance, c'est-à-dire les payer intégralement de leurs prestations. Donc, quand ils nous rejoignent en tant qu'associés, bon, ils ont une adhésion en tant qu'associés parce qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble et on est sur toutes les régions de France. Pour l'instant, la notion de territoire est très importante pour nous. On veut être au plus près de nos clients partout.
Justement, est-ce qu'il y a des régions en tension, comme on dit ? Est-ce que vous avez besoin plus fort ?
Pour l'instant, on a besoin partout. Ouais. Parce que pour l'instant, on a 30...
Oui, vous êtes en développement.
Oui, on a 30 coachs formateurs associés. Mmh. En fin d'année, on a besoin d'arriver à 60-70. L'année prochaine, 100 de plus. Et après, on va commencer l'année prochaine le développement sur les territoires étrangers.
D'accord.
Voilà.
Donc, quelle qualité attendez-vous chez vos coachs ?
Ah, alors là, un background d'abord dans l'entreprise. Une bonne connaissance de l'entreprise à des fonctions de responsabilité managériale. Et puis, ensuite, des qualifications, certifications, enfin bon, pour les métiers qu'ils font, hein, et ça c'est important pour nous, le haut niveau de professionnalisme. Ensuite, une appétence pour l'innovation et la technologie aussi, c'est important.
Dernière question, pourquoi vont-ils vous rejoindre? Quels sont les plus? On a une minute.
Alors, d'abord, ils vont nous rejoindre parce que ça fait sens d'être associés, membres associés, qu'ils peuvent s'emparer du collectif pour monter eux-mêmes au créneau de gros projets dans leur région, puisqu'ils ont toute la force de leur pair au sein du collectif. Ils ont l'équipe commerciale et l'équipe learning. Ils ont l'écosystème digital qui est extrêmement performant, qui est vraiment une innovation chez nous. Et donc, et puis il y a tout l'aspect R&D. On travaille sur le futur de nos métiers ensemble. En ce moment, on travaille sur un sujet sur l'absenté. On travaille en solidarité les uns vis-à-vis des autres. Ils sont en toute liberté aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'ils peuvent participer comme ils le souhaitent.
Bon, mais c'est bien, je vous ai demandé une minute, ça fait une minute. Merci, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.
Merci.
Donc, on répète, un peu partout en France, des postes
oui, tout à
de
fait.
Coach associé, oui. Sociétaire.
Sociétaire.
Voilà, oui. Sociétaire à pourvoir. Julien Goiran. Donc, on a compris, les postes de terrain, il faut les supporter dans le sens supporteur. Et merci encore à vous, Lynn de Kilmen, pour la description des postes à pouvoir dans le groupe Arche. Le siège est à Tours. Le président et fondateur, il est toujours aux manettes. C'est fort. Hein.
Oui.
C'est une des, ce qu'on appelle une réussite, une success story à la française. C'est
absolument.
Ça. Félicitations et merci à vous. On vous souhaite un bon week-end. On se retrouve le week-end prochain avec d'autres offres d'emploi. Des découvertes avec les startups et des découvertes avec des sujets, bien sûr, des décryptages. Merci à toute l'équipe. Salut.
BFM Business, le Club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.